et de louper un épisode. Les interviews de Pascal Fourier. En collaboration avec le site Mémoire des Luttes. Aujourd'hui, Christophe Rameau, maître de conférences en économie à Paris et auteur de l'État social pour sortir du chaos néolibéral aux éditions Mille et Une Nuits. À l'heure où trouver des alternatives au modèle néolibéral mortifère devient une urgence, c'est un livre vivifiant que nous offre Christophe Rameau. Car l'alternative est là, à portée de main, au travers de l'État social ou l'État-providence, dont certains ont tant célébré la mort, ce qui n'est pas. L'État social est, dans l'histoire contemporaine, une révolution, dont on doit saisir la profondeur et le potentiel pour sortir enfin du néolibéralisme. C'est après donc avoir lu le pavé de 400 pages enthousiasmante de Christophe Rameau que je suis allée le rencontrer dans les locaux de Mémoire des Luttes. Enthousiasmant le livre, mais finalement pas livre d'un doux rêveur, d'un passéiste ? Je me posais la question. Et je la lui ai posée.
Donc dans le livre « L'État social » que vous publiez aux éditions Mille et Une Nuits, vous soutenez l'idée que le néolibéralisme peut et doit être combattu par la reviviscence de l'État social. On appelle aussi l'État de providence, finalement, ce qui a existé pendant les Trente Glorieuses. Au moment où les caisses de l'État sont vides et où la croissance n'est pas au rendez-vous, cette pensée qui s'inscrit dans la tradition keynésienne pourrait passer pour celle d'un doux rêveur, non ?
Ou d'un passéiste, je ne sais pas. Oui, donc le point de vue que je soutiens, c'est qu'en fait, l'État social, que j'invite à définir au sens large, parce que souvent, quand on parle d'État social, on réduit en fait la chose à la protection sociale. Moi, j'invite à retenir une définition large de l'État social, donc avec la protection sociale, bien sûr, mais aussi la régulation des rapports de travail et de production, d'ailleurs, c'est-à-dire l'organisation de l'entreprise, selon une logique qui n'est pas la seule logique, qui ne soit pas la seule logique des actionnaires. Donc, deuxième pilier, donc la régulation des rapports de travail d'entreprise, troisième pilier, les services publics, et puis quatrième pilier, toutes les politiques économiques, politique de revenus, politique budgétaire, politique monétaire, politique industrielle, commerciale, de soutien à l'activité et à l'emploi. Et donc, l'idée, c'est que, en fait, tout ça, ça déborde largement les Trente Glorieuses. On a vraiment tort de réduire l'État social ou l'État-providence aux Trente Glorieuses. D'abord parce que tout ça est né avant les Trente Glorieuses. Ce que je soutiens dans le livre, c'est que l'essentiel, en fait, pour l'État social, c'est joué à la fin du XIXe siècle. C'est à la fin du XIXe siècle que les sociétés, de façon très laborieuse, par mille et un canaux, avec de très grandes variantes nationales, sont arrivées à la conclusion que l'initiative privée, ça a du bon. Le marché, la concurrence, ça a du bon. Mais il y a des choses que l'initiative privée n'est pas à même de remplir de façon satisfaisante. Donc en fait, c'est tout ce qui met en jeu la part de l'intérêt général qui n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers. Donc concrètement, c'est quoi ? Ben voilà, il y a l'idée qu'on arrive à la fin du 19e au constat, au diagnostic que le marché et ça lui-même ne permet pas d'avoir le plein emploi, la réduction des inégalités, la stabilité financière, la satisfaction d'une série de besoins sociaux en matière de santé, en matière de retraite, voilà. Et donc, on arrive à la conclusion qu'il y a besoin de construire des économies mixtes. C'est-à-dire avec du marché, avec de l'initiative privée, mais aussi avec de l'intervention publique, qui pour le coup n'est pas une simple béquille à l'accumulation du capital. Cet État social, en se construisant, va largement déborder ce rôle de béquille initial qu'il a pu avoir initialement, va largement le déborder. Donc le point de vue que je soutiens effectivement, c'est que sur longue période, on est confronté à deux logiques. La logique du capitalisme libéral, qu'on connaît bien, dans le même temps, c'est développé une alternative dont on n'a pas saisi toute la portée, qui est donc déjà là, sous la portée de main en quelque sorte, qu'il suffirait en quelque sorte de vraiment déployer, qui est celle de l'État social. Et donc l'État social, contrairement à ce que vous souteniez tout à l'heure, il n'est pas du tout du passé. Il n'est pas du tout dépassé. Ce que je soutiens, c'est qu'il est doublement en actualité. Il est d'actualité en premier lieu parce qu'il est toujours là. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention au discours catastrophiste qui laisse entendre que le néolibéralisme aurait tout emporté. Bien sûr que le néolibéralisme a remis en cause l'État social. D'ailleurs, au passage, on voit que définir l'État social par les quatre piliers, c'est très intéressant parce que ça permet y compris de saisir la cohérence du libéralisme. Le néolibéralisme, c'est rien d'autre que la remise en cause des quatre piliers de l'État social. Voilà. Privatisation de la protection sociale et des services publics, flexibilisation du droit du travail et réorientation des politiques économiques dans un sens libéral. Bon, mais malgré tout, donc le néolibéralisme a été bien entendu appliqué, il a conduit à des reculs de l'État social plus ou moins importants selon les piliers, selon les pays, mais l'État social n'a pas été mis à bas. Donc je donne une série de statistiques, la part de la dépense publique globalement est plus élevée aujourd'hui, avant même la crise de 2007 où elle a franchi un nouveau cap, mais enfin elle est plus élevée aujourd'hui qu'elle ne l'était à la fin des années 70, la part des dépenses publiques sociales est plus élevée. Voilà, on pourrait ainsi multiplier les exemples hein, qui montrent que, bien sûr, que le néolibéralisme, ce qu'il a peut-être, ce que le néolibéralisme a peut-être là où il a peut-être le plus porté, d'abord c'est au niveau idéologique, bien entendu. Hein, peut-être qu'on reviendra sur ce point, mais qui me semble très important. Je pense qu'on, surtout dans les phases de bifurcation de l'histoire, comme celle qu'on connaît aujourd'hui, avec la grande crise qui s'ouvre en 2007, qui marque une phase de. Qui marque comme la celle des années 30, ça marque une phase, on est à un carrefour de l'histoire. On s'en souviendra dans des décennies. On dira, ah bah tiens, il y a eu les années 2007, 2012, etc. Le problème, c'est de savoir vers où ça va aller, ça on ne sait pas, bien entendu. L'histoire est ouverte. Bon, mais donc, le néolibéralisme, il a réussi à porter, là où il a porté le fer le plus loin, c'est en termes idéologiques, c'est très important, bien entendu, sur la cohérence d'ensemble. Il est parvenu, y compris, à délégitimer l'État social. Et puis, le deuxième volet plus pratique où il a porté le fer, c'est sur le volet politique-économique. C'est-à-dire, en fait, là où il a été le plus loin dans la remise en cause, c'est sur des dispositifs de politique économique. Donc, avec la libéralisation financière, le libre-échange, l'austérité salariale, la contre-révolution fiscale, là, on a bien un ensemble de dispositifs qui fait système et qui a imposé un nouveau régime de politique économique, qui n'est pas viable, bon, qui n'est pas viable et qui a explosé en 2007 en fait. Donc la deuxième raison qui fonde l'actualité de l'État social, bah, elle, justement c'est la crise de 2007 en quelque sorte, mais au-delà de la crise de 2007, il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait prendre, bah, c'est le bilan du néolibéralisme. C'est-à-dire que première raison pour laquelle l'État social n'est pas dépassé, c'est qu'il est toujours là, il a été déstabilisé mais il n'a pas été mis à bas. Deuxième raison, c'est le bilan proprement accablant du néolibéralisme. Et la crise de 2007, bien entendu, a bon dans ce sens. Donc cette crise, on peut dire qu'elle réhabilite, au moins en creux, l'État social.
Oui, mais pour l'État social, on n'a plus de sous.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas les moyens? Vous évoquez le débat sur on n'a plus d'argent, etc. Mais bien sûr que si, on a de l'argent. Donc il n'y a pas du tout de difficulté à ce niveau-là. Si vous aviez en tête la question de la dette publique, pour dire qu'on n'avait plus les moyens, mais il faut savoir que les pays développés, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, donc avant ce qu'on a appelé l'âge d'or de l'État social, ils étaient beaucoup plus endettés qu'ils ne l'étaient aujourd'hui. Les pays, la plupart des pays développés avaient une dette publique comprise entre 150% et 300% du PIB. La dette publique américaine, c'était 120% du PIB. Voilà, et ça n'a pas empêché les Trente Glorieuses et le développement de l'État social, qui était né auparavant, mais qui effectivement s'est considérablement développé durant toutes les Trente Glorieuses, pas simplement en 45 d'ailleurs, pas simplement à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. C'est une construction laborieuse à nouveau, donc qui s'est étendue durant les années 50, 60, 70. Donc on a les moyens, bien entendu, c'est une question de choix de société. On a les moyens aujourd'hui de faire ce qui devrait être fait. Donc c'est une question de choix politique, développer la protection sociale, parce que c'est efficace d'un point de vue de la justice sociale et du point de vue économique. C'est plus économique que le recours au privé, on a les moyens de développer les services publics, ce qu'on devrait faire, et si on le fait pas, on est obligé de recourir au privé, et le privé est beaucoup plus coûteux, et il est beaucoup plus inégalitaire. Donc on a les moyens de le faire, c'est une question de choix politique. Enfin, on peut préciser tout ça, hein, mais...
mon Dieu, je le connaissais pourtant, Christophe Rameau. Je savais que c'était l'économiste qui parlait comme une mitraillette, mais je me suis laissé prendre au piège. Impossible de placer un mot, presque. Un désastre. Alors attention, dans quelques instants, une de mes questions les plus longues. Un miracle.
Oui, parce que justement, quand vous dites la dépense publique a augmenté au fur et à mesure, mais finalement, c'est une ponction sur la création de PIB par la sphère privée.
Disent les libéraux. Oui, le point de vue des libéraux, effectivement, c'est ça, c'est l'idée. Et ça, c'est une victoire intellectuelle qu'ils ont réussi à emporter dans la plupart des pays. C'est l'idée qu'effectivement, dans la plupart des pays, je dis avec une nuance, qui est que dans les pays nordiques, en Suède, au Danemark, etc., il est quand même très fortement inscrit dans la tête des gens, l'idée que payer des impôts, c'est une chose très très importante, c'est très utile, c'est très précieux. Parce que les impôts, ben, ça sert à payer justement des services publics qui sont extrêmement importants. Bon, ben, enfin, globalement en France, comme dans d'autres pays, comme dans malheureusement beaucoup d'autres pays, il y a effectivement l'idée que les prélèvements obligatoires sont trop importants, et que la dépense publique est trop importante, parce que justement elle est financée par prélèvements obligatoires, et donc c'est des prélèvements qui seraient faits sur le privé pour financer des activités publiques improductives. Bon, tout ça est totalement faux, du début jusqu'à la fin. Ben, d'abord, il faut savoir que dans la dépense publique, donc, qui représente 1100 milliards d'euros aujourd'hui en France, donc 56% du PIB, donc c'est colossal. Il faut savoir qu'il y en a la moitié déjà qui sont en fait des prélèvements, il y a bien des prélèvements qui sont opérés, mais pour être immédiatement reversés aux ménages sous forme de prestations sociales, que ce soit les prestations sociales en espèces, la retraite essentiellement, mais aussi chômage ou allocation familiale, ou ce qu'on appelle les prestations sociales en nature, c'est-à-dire le remboursement par les administrations publiques, principalement la sécurité sociale, de frais engagés par les ménages auprès du privé, c'est-à-dire achat de médicaments, consultation de médecine libérale, paiement des loyers aux propriétaires, voilà, pris en charge en partie par les allocations de logement. Bon voilà, quand on additionne les prestations sociales en espèces, retraite essentiellement les prestations sociales en nature, que je viens d'évoquer, on arrive à 580 milliards, c'est-à-dire la moitié de la dépense publique. Donc la moitié de la dépense publique déjà est prélevée pour être immédiatement reversé aux ménages. Ça ne rentre pas dans les coffres de l'État, ça ne sert pas à faire vivre des fonctionnaires, ça soutient le revenu des ménages, ça représente un tiers de ce qu'on appelle le revenu disponible brut des ménages. Et bien entendu, ça soutient leur consommation privée, et donc ça offre des débouchés fantastiques aux entreprises. Quand les entreprises disent qu'il faut baisser les charges, quand une partie du patronat dit qu'il faut baisser les charges sociales, ben, si on baisse les charges sociales, ça veut dire qu'on baisse bien entendu toutes ces prestations sociales, et donc on baisse d'autant les débouchés des entreprises qui s'en porteraient pas très bien.
La moitié des prélèvements sont redistribués immédiatement aux ménages et fait ainsi tourner la machine économique des vous. Et l'autre moitié?
L'autre partie de la dépense publique, elle sert essentiellement à payer en fait les services publics non marchands. C'est-à-dire elle sert à payer le travail productif des fonctionnaires, puisqu'un fonctionnaire, ça c'est une convention qu'à juste titre tous les pays du monde aujourd'hui retiennent, c'est une convention de comptabilité nationale édictée par l'ONU depuis au moins 68. Donc l'ONU invite tous les États qui le font à considérer que leurs fonctionnaires contribuent au PIB, c'est ce qu'on appelle le PIB non marchand. Et donc, un fonctionnaire en France comme ailleurs, ça contribue au PIB. Un enseignant, une infirmière, un médecin d'un hôpital, un militaire, un artiste, dès lors qu'il est payé, par exemple, par une collectivité locale, tout ça, ça contribue. C'est pas simplement utile socialement, c'est pas simplement, ça produit pas simplement des valeurs d'usage, ça produit aussi des valeurs monétaires, ça augmente le PIB. Voilà, aujourd'hui, moi, j'augmente le PIB. Et mes étudiants, ils ont consommé du PIB. Donc, à quoi sert l'impôt? Ben, l'impôt, stricto sensu, donc je parle pas des prélèvements, des cotisations sociales pour l'essentiel qui servent à payer les prestations sociales, ça on en a déjà parlé, mais l'impôt stricto sensu, en fait, ça sert pas à financer le travail improductif du fonctionnaire, ça sert à payer son travail productif. Ça joue exactement le même rôle que le prix dans le privé, en fait. Voilà, donc quand vous allez dans une boulangerie le matin, vous rentrez pas dans la boulangerie en disant « boulanger, heureusement que je suis là pour financer ta boulangerie », non, vous payez votre croissant et vous jugez que c'est bien normal. Et bien en fait, payer des impôts, c'est exactement la même chose, ça sert à payer le travail productif du fonctionnaire. Voilà. Et donc on est tous sur le même bateau, en quelque sorte. Hein, ceux du privé, ceux du public, on contribue tous au PIB. Donc une des questions centrales, bien entendu, de notre vie en commun, de la vie en société, bah, c'est savoir à combien on évalue les activités des uns des autres. Voilà. Et donc à combien doit être payée l'heure d'un professeur des écoles par rapport à l'heure d'un plombier, à l'heure d'un tourneur, à l'heure d'un médecin. Voilà. Bah, et on voit, on s'aperçoit d'ailleurs, donc selon les époques, selon les pays, bah, ces évaluations sont différentes. Mais voilà, c'est un des gros débats. Un des gros débats sociaux qui est au cœur de notre vie, et l'impôt, quelque part, il alimente ce débat, en fait. Il le tranche d'une certaine façon, tout comme le prix du privé le tranche. Mais le prix du privé, il est aussi inséré dans des règles. Il y a le droit commercial, il y a le droit du travail. Voilà, donc dans tous les cas, il y a des règles. Bon, mais donc l'impôt, ça sert à valider socialement le travail productif du fonctionnaire. Voilà. Et donc ça, raisonner comme ça, ça permet y compris de mettre du lien entre public et privé, en sachant que la séparation entre public et privé, c'est un des gros problèmes auxquels les défenseurs de l'État social, parmi lesquels je compte, bien compris, auxquels ils sont confrontés. C'est-à-dire que, effectivement, dans la tête de nombre de citoyens, il y a l'idée que le travail, que l'emploi de fonctionnaire, ça sert d'abord les intérêts du fonctionnaire. Ça, c'est une catastrophe. Et donc, il est très important, si on veut opérer une vraie contre-offensive par rapport aux libéraux, bah, de mener la contre-offensive sur ce terrain des idées, des représentations, en essayant d'inscrire dans les têtes exactement l'inverse de ce que ont réussi à inscrire les libéraux, c'est-à-dire le statut de l'impôt. Non, l'impôt, ça sert à payer le travail productif du fonctionnaire, donc c'est très utile. Après, bien entendu, il y a un débat légitime sur est-ce qu'il faut que telle activité soit non marchande et prise en charge par le public ou pas, ou est-ce qu'elle doit être confiée au privé.
Vous voudriez que davantage de choses dépendent du travail productif des fonctionnaires, décidément si utile?
Moi, je ne suis pas pour que toute la société relève du public. Hein. Voilà, je pense qu'on a le XXe siècle est passé par là. Donc, moi, je ne suis pas pour la socialisation complète de tous les, la nationalisation de tous les moyens de production. Ça ne sert strictement à rien. Voilà. Donc, le pays qui a licencié le plus de fonctionnaires ces dernières années, c'est pas la France de Sarkozy, c'est pas la Grèce de Papandréou, c'est pas la Grande-Bretagne de Cameron, c'est Cuba. Voilà, parce qu'ils avaient été trop loin. 85-90% de fonctionnaires, c'était trop. Donc, ils ont décidé de supprimer près d'un cinquième, entre un cinquième et un quart de leurs fonctionnaires. Donc il faut laisser la société respirer. Donc voilà, donc un des gros enjeux, c'est voilà, qu'est-ce qu'on confie au public sous forme, on décide de délivrer certains services sous forme non marchande, donc l'éducation, la santé, ou qu'est-ce qu'on confie au privé. Les libéraux, ils sont pour que tout soit privé. Donc c'est sûr qu'ils sont pour baisser les prélèvements obligatoires. parce que ils sont pour que l'éducation, que la santé, que la retraite, ça soit privé. Mais ce sur quoi il faut insister, c'est que dans leur modèle, on paye quand même. Mais on paye pas la même chose. C'est ce qui se passe aux États-Unis, si vous voulez, à la fin. Aux États-Unis, c'est vrai que les prélèvements obligatoires sont plus faibles qu'en France. Alors les impôts stricto sensu, à peu près, c'est à peu près le même niveau. Mais en fait, ce qui est moins élevé aux États-Unis, c'est les prélèvements au titre des cotisations sociales. Pour la prestation sociale, puisque les prestations sociales qui existent quand même aux États-Unis, heureusement pour les Américains, sinon ils seraient vraiment très mal, la santé, surtout, la retraite aussi, est plus privée aux États-Unis qu'elle ne l'est dans un pays comme la France. Mais donc, qu'est-ce qui se passe à la fin de chaque mois? C'est vrai que les entreprises payent moins de cotisations sociales. Elles payent moins de charges sociales. Mais en fait, ils payent plus de prélèvements privés, tout simplement. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque mois, l'entreprise, elle est obligée de payer un chèque au fonds de pension, un gros chèque à l'assurance privée, pour assurer la couverture privée, puisque... Aux États-Unis, on ne fait pas mourir les retraités, on n'a pas généralisé le terme, vous voyez ce que je veux dire, on ne fait pas ni mourir les retraités, ni on soigne malgré tous les malades, il faut bien comment on paye ça? Aux États-Unis, on paye plus sous la forme marchande, donc sous la forme d'un prix, que sous la forme de l'impôt. Donc la seule question qui vaille, c'est est-ce que c'est bien de faire comme ça? Est-ce que c'est judicieux de faire, juste et judicieux de faire comme ça? Et la réponse que l'on peut donner, à l'aune de l'expérience américaine notamment, mais on pourrait multiplier comme ça les exemples, c'est que on redécouvre la leçon de la fin du 19e, c'est que c'est ni juste, ni efficace. Les États-Unis sont de très loin le pays qui consacre le plus d'argent pour la santé. 17 à 18% du PIB américain, c'est pour la santé, contre 13% en France. Voilà, quelque chose de colossal, et en fait, ce qu'on s'aperçoit aux États-Unis, c'est qu'ils dépensent donc énormément d'argent pour la santé, donc c'est très coûteux, mais ça ne fonctionne pas. On estime que les frais de gestion des dépenses de santé privées américaines, c'est de l'ordre de 40%, c'est près de 40% des dépenses de santé privées américaines. C'est un truc de fou. Alors qu'en France, le frais de gestion de la sécu, c'est moins de 5%. Voilà, donc le coût de recours au privé, c'est très élevé. Et voilà, donc à la fin de chaque mois, les entreprises américaines, elles payent énormément de prélèvements privés. Voilà. Elles payent moins de prélèvements obligatoires, mais elles payent plus de prélèvements privés. Ça ne rentre pas dans les prélèvements obligatoires, parce que même si de facto, c'est comme si c'était obligatoire, puisqu'une fois que l'entreprise a signé un contrat avec une compagnie d'assurance ou un fonds de pension, elle s'est engagée, elle est obligée de le faire. Comme vous êtes obligé de payer votre assurance auto, votre assurance habitation, c'est obligatoire. Mais ça ne rentre pas dans les prélèvements obligatoires, parce que ça va au privé. Voilà, c'est la seule différence. Et donc, la grande question qui se pose, c'est ça. C'est, à nouveau, c'est qu'est-ce qu'on confie au privé, qu'est-ce qu'on confie au public, et ça devrait être le principal. On devrait laisser aux citoyens la possibilité de trancher cela de façon démocratique, par la délibération démocratique. Ça devrait être l'un des principaux enjeux du débat démocratique, c'est les citoyens assemblés, au niveau local, au niveau national, est-ce que c'est mieux de confier la gestion de l'eau au privé ou au public? Aux États-Unis, par exemple, ils ont fait le choix du public. Aux États-Unis, il faut savoir que la gestion de l'eau, c'est public. Comme quoi, il y a des services publics aux États-Unis. Ça fait des années que les multinationales françaises de l'eau essayent de s'implanter aux États-Unis. Pour l'instant, ils n'ont pas vraiment réussi. Ils ont réussi au Royaume-Uni, mais pas aux États-Unis. Donc voilà, qu'est-ce qu'on doit confier au public? Qu'est-ce qu'on doit confier? Est-ce que la gestion de l'eau? Est-ce que l'école? Est-ce que la santé? Est-ce que les retraites? Est-ce que les infrastructures publiques? Est-ce que la construction des hôpitaux? Est-ce que ça va relever du privé, y compris sous la forme de partenariat public-privé, parce que c'est la nouvelle mode? Ou est-ce que ça va relever du public? Le point de vue que je soutiens, c'est que, en premier lieu, ce débat doit être ouvert, et puis en deuxième lieu, y a bien des domaines, pas tous les domaines, mais il y a bien des domaines où le public a des arguments pour lui. Voilà.
Oui, je sais, c'est déconcertant une interview sans intervieweuse, ou presque. À la décharge de l'intervieweuse, elle apprenait, buvait les paroles de son interviewé, qui ne disait pas exactement ce qu'elle entend d'ordinaire ailleurs. Mais là, sortant de sa torpeur, elle a glissé une de ses petites questions d'une si désespérante candeur.
Comment se fait-il que la gauche, moi je me suis dit, pourquoi le gouvernement ne s'inspire-t-il pas du livre de Rameau?
On en demandait, mais le problème qu'a la gauche avec l'État social, c'est qu'en fait, le point de vue que je soutiens, c'est que l'État social, c'est notre véritable révolution. C'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire, quand on met bout à bout protection sociale, services publics, on arrive à... Pour filer un peu le propos tout à l'heure, en fait, il faut savoir que dans le revenu des ménages, on arrive au total, quand on prend en compte ce que les ménages reçoivent en termes de prestations sociales en espèces, pension de retraite essentiellement, de prestations sociales en nature, mais aussi de consommation de services non marchands. Donc donc l'éducation. En fait, on arrive à 42% de ce qu'on appelle le revenu disponible brut ajusté des ménages. C'est-à-dire le revenu disponible brut, c'est-à-dire qu'on a ajouté tout ça, justement. Près de la moitié. C'est-à-dire près de la... 42%, on n'a même pas pris en compte ce que les ménages consomment, en fait, en termes de fonctions régaliennes de l'État, enfin de ce qu'on appelle les services non marchands collectifs. C'est pas simplement les fonctions régaliennes d'ailleurs, c'est les fonctions régaliennes, police, justice, armée, mais aussi les infrastructures, où là la comptabilité nationale, par convention, considère que c'est les administrations elles-mêmes qui les consomment, parce qu'on peut pas les individualiser justement, on peut pas dire c'est telle personne qui a utilisé le trottoir et pas telle autre, c'est telle personne mais pas telle autre. Donc par convention, on considère que c'est les administrations qui consomment cette production, parce qu'il y a bien production. Tout ce qui est produit doit bien être utilisé. Et on doit être bien consommé ou investi. Donc en l'occurrence, c'est de la consommation. Et on considère que, comme on n'arrive pas à individualiser, cette production, on considère que c'est les administrations qui les consomment elles-mêmes. En fait, c'est les citoyens qui, bien entendu, en bénéficient. C'est pas les martiens. Bon. Donc voilà, on arrive à 40, donc 42% sans même tenir compte de ça. Si on tient compte de ça, on arrive à près de 50%. C'est-à-dire que près de 50% du revenu. Ben, rien ne se perd. La dépense publique, je vous ai dit tout à l'heure, c'est 50% du PIB, on retrouve ça en termes de consommation des ménages. Rien ne se perd. Bon, très bien. Et donc l'État social, c'est quelque chose d'énorme. Et paradoxalement, ce qu'on peut soutenir, ce que je soutiens, mais je pense que ce jugement peut être aisément partagé par tous, c'est le fait que, on n'a pas la théorie de cet État social. Voilà. L'État social, c'est notre principale révolution, finalement. Vu l'échec du communisme au XXe siècle, c'est la principale révolution qui nous reste, c'est l'État social. Et paradoxalement, on n'a pas la théorie de cette révolution. C'est une véritable révolution, parce que ce que je soutiens, c'est que d'ores et déjà aujourd'hui, y compris dans les pays qu'on nomme libéraux, en fait, on ne vit pas dans des économies de marché, ça fait des bêtises. On vit dans des économies avec du marché et avec de l'intervention publique, parce que l'État social existe dans tous les pays du monde, avec des formes plus ou moins importantes. Bon. On ne vit pas dans des sociétés monocapitalistes, pour dialoguer un peu avec les marxistes. On peut dire que c'est vrai que les rapports capitalistes dominent, mais enfin, ils ne surdéterminent pas tout. L'État social, il n'a pas simplement une dimension antilibérale, il a une dimension anticapitaliste. Il y a des sphères entières d'activité qui échappent au capital. Lui, il l'a bien compris d'ailleurs. Hein. Il essaie de récupérer le morceau, donc il l'a compris dans sa chair, lui. Bon, donc on n'a pas de théorie de l'État social.
Pourquoi ?
Le marxisme est responsable ici. D'accord ? C'est-à-dire le marxisme, et moi je reste un économiste marxiste sur le cœur de l'analyse de Marx, qui est l'idée que le capitalisme, c'est la salariat et qu'il y a l'exploitation salariale. Donc c'est bon, voilà, on n'est quand même pas très nombreux à être sur ce. Voilà, donc, mais par contre, notamment pour penser l'État social, je pense qu'il faut du coup y sortir de Marx. Parce que la thèse de Marx qui a empêché pendant longtemps. C'est ce qui explique en partie pourquoi la gauche n'a justement pas de théorie d'État social. La thèse de Marx, ça consiste à dire que le rapport capital-travail noué dans les entreprises capitalistes surdétermine tout en dernière instance, et donc l'État, finalement, tout entier, c'est un État bourgeois, quoi, voilà, même s'il y a des médiations, même s'il peut y avoir des petites... Voilà, enfin, globalement, en dernier ressort, en dernière analyse, comme de manière le marxiste, il y a l'idée que, voilà, tout est surdéterminé par la domination du capital, et donc l'État lui-même est un État capitaliste, un État bourgeois. Bon. Et la démocratie elle-même serait une démocratie purement bourgeoise. Bon, je pense que ça, c'est interdit de penser l'État social, tout simplement. Hein. Donc voilà, donc on n'a pas d'État social à la fois. Bon, il y a le marxisme qui est en cause, il y a du point de vue économique, dans les théories économiques, il y a une théorie qui est la théorie la plus précieuse pour penser l'État social, c'est la théorie keynésienne. Avec l'idée qu'on trouve chez Keynes, l'idée que le tout n'est pas réductible aux jeux des parties, que la macroéconomie est pas réductible à la microéconomie, que l'intérêt général n'est pas réductible aux intérêts particuliers, ce que les marxistes ont du mal à comprendre, soit dit en passant. Bon, mais on peut dire que la pensée keynésienne, quelque part, elle était victime de la guerre froide, elle aussi. C'est-à-dire qu'en fait, la guerre froide, qui a marqué le XXe siècle, enfin l'opposition communisme-capitalisme, pour aller vite, qui a marqué le XXe siècle, en fait. On peut dire que le XXe siècle, il a commencé en 17, il s'est terminé en 1989, c'est un siècle court. Donc durant le XXe siècle, pour aller vite, ce qui dominait comme partition, c'était l'idée, soit on était pour le communisme, contre les libertés, contre la démocratie et pour l'État social, mais tel qu'il existait en Union soviétique, soit on était pour le capitalisme. Et les Keynésiens, quelque part, sont rentrés finalement dans le sens. Ou essayé, Keynes en particulier, lui, quelque part, ne se reconnaissait pas dans cette fausse alternative. Hein? Donc Keynes, comme plein d'autres, ont essayé de trouver une troisième voie. Mais en fait, malgré tout, Keynes lui-même, et puis surtout les Keynésiens qui ont suivi ce qu'on appelle les post-Keynésiens, on peut dire que finalement ils sont rentrés dans cette alternative. Et donc, comme ils étaient pour la démocratie, pour les libertés, ils ont quelque part choisi le camp du capital. Et donc d'ailleurs, la plupart des travaux keynésiens sur l'État social dans les années 50, 60, jusqu'à aujourd'hui même, ce sont des travaux keynésiens qui se focalisent sur un seul des piliers de l'État social, la politique économique. Et on peut résumer, en exagérant beaucoup, mais malgré tout, on peut quasiment résumer la plupart des travaux keynésiens, c'est une école vivante en théorie économique, la théorie post-keynésienne. La plupart des travaux post-keynésiens, en fait, peuvent se résumer ainsi, c'est quelle est la bonne politique budgétaire et la bonne politique monétaire à mettre en œuvre par l'État pour soutenir l'accumulation du capital privé. Voilà. Donc il y a bien l'idée, pour le coup, on réduit l'État, l'intervention publique au rang de béquille de l'accumulation de capital, ce qui renforce le point de vue de l'accusation des marxistes sur le thème, hein, vous êtes bien que des suppôts du capitalisme, et voilà, etc. Donc on a bien, si on peut dire les choses autrement, la guerre froide, elle a été très favorable à la construction de l'État social d'un point de vue empirique, mais elle a empêché de penser l'État social d'un point de vue théorique. Voilà. C'est un peu ça qu'on peut soutenir. Voilà. Elle a largement empêché ça, et on est encore dans cette histoire-là. Pour dire les choses autrement, ça fait depuis longtemps, on peut dire que la majorité de la population considère que le libéralisme, c'est pas leur choix. C'est pas quelque chose auquel ils adhèrent. Dans les années 80, c'est passé. Si t'entends dans les années 80, le libéralisme était dominant. Mais bon, peu importe. Mais ça fait longtemps, ça fait plusieurs années que le libéralisme a perdu sa légitimité populaire. Le gros problème, et alors ça a fonctionné depuis 2007, le gros problème, c'est l'alternative. Le gros problème, ce dont on manque, c'est l'alternative. Voilà. Et donc, ce que je soutiens, bah, c'est que cette alternative, finalement, bah, elle est à portée de main. Elle est à portée de main avec deux leviers, l'État social et la démocratie au sens fort, le suffrage universel, le pouvoir populaire à travers la démocratie. Voilà. Et les deux sont liés d'ailleurs. Donc on peut dire les choses autrement encore. Il y a encore pas mal de gens, j'en fais partie, à certains égards, qui se revendiquent du socialisme, du communisme, mais on ne sait plus du tout ce que c'est. C'est quoi le socialisme? C'est quoi le communisme? C'est quoi? Il y a encore des partis communistes, il y a encore des partis socialistes, mais qui? C'est quoi? Alors, la réponse traditionnelle, c'était la socialisation complète des moyens, la socialisation des moyens de production. Enfin, si on entend par socialisation des moyens de production la nationalisation des moyens de production, on est sûr d'être minoritaire. D'accord? Parce que l'expérience du XXe siècle montre qu'il faut peut-être pas aller trop loin, voilà, ça sert à rien de tout nationaliser, bon, voilà, même s'il faut nationaliser beaucoup plus de secteurs qu'aujourd'hui. Et puis surtout, il y a aussi la démonstration que qui dit nationaliser dit pas forcément progrès, toujours, quoi, voilà, hein, donc, bon. Donc, le socialisme tel qu'il était défini comme l'idée de, comme cette idée-là de socialisation des moyens de production, ça suffit pas à l'évidence à définir un projet un projet alternatif. Bon. Par contre, si on prend les choses autrement, si on définit le socialisme de la façon suivante, qui consiste à dire, bon, c'est pas au capital de primer. J'ai bien dit de primer, ça veut dire qu'on supprime complètement le capital. Non, de primer. Donc c'est pas à l'ordre du capital de primer. Ce qui doit primer, c'est le pouvoir des citoyens. Ce citoyen, placé sur un pied d'égalité, de décider de l'organisation de la société. Voilà. C'est la démocratie au poste de commandement. Et donc c'est notamment au citoyen de décider, ben voilà, quelles sont les activités qu'on va confier au public, qu'est-ce qui doit être confié au privé, sous quelle forme.
Et voilà, c'était J'ai dû louper un épisode en compagnie de Christophe Rameau. Bien évidemment, je ne peux que vous conseiller la lecture de son livre « L'État social », publié aux éditions des Mille et Une Nuits. Vous renaclez 400 pages, me direz-vous. Certes, mais à petite dose, à coup de 50 pages, vous découvrirez une mine d'enseignements. Je vous le conseille vraiment. L'interview papier, un peu différente de la transcription pure, se trouve sur le site de Mémoire des Luttes, www.medelut.org. Et bientôt, normalement, un bonus son sur le site de J'ai dû louper, www.jaidulouper.org. A bientôt.